Au sommaire de ce journal, reprise timide des cours ce lundi dans les écoles primaires publiques de Butembo Nord Kivu. Cette rentrée tardive des classes fait suite à l'annonce de la suspension du mouvement de grève par l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Plus de précisions dans quelques instants. Panique à Pinga au Nord Kivu. À la base, la frayeur causée par une avancée des rebelles du M23 selon la société civile locale. Ces M23 occupent depuis ce week-end d'autres localités de la zone comme Malemo Mpeti. Conséquence, plusieurs habitants ont fui leur milieu pour se réfugier ailleurs. La 8e édition du Salon des métiers et de la formation se tient à partir de demain à Lubumbashi. Thème retenu, développer les compétences pour demain, favoriser la collaboration et l'innovation. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Okatanga, Patrick Mouland, notre invité, nous en parle dans ce journal. Bonjour. Au Nord Kivu, certaines écoles primaires publiques de Butembo ont repris timidement les cours ce lundi. Cette reprise fait suite à l'annonce de la suspension du mouvement de grève par l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2 qui couvre la région de Beni, Butembo et Lubero. Cette décision fait suite aussi à une rencontre tenue dimanche à Butembo entre les différentes structures syndicales et une délégation du ministère de l'EPST venue de Kinshasa. Les détails avec Grévis Salomon.
Ce lundi, quelques écoles primaires publiques ont rouvert leurs portes, mais avec un nombre réduit d'élèves et d'enseignants. Par exemple, dans les écoles primaires Monseigneur Kaunga, Kataliko, Kavaindi et Vusia, les quelques élèves présents ont été encadrés par les enseignants. Dans d'autres écoles, en revanche, les rares élèves qui se sont présentés ont dû repartir chez eux en raison de l'absence d'enseignants. L'intersyndicale des enseignants appelle ses membres à reprendre le travail après près de 2 mois de grève. Moïse Ndongo, porte-parole de cette structure syndicale, précise.
Après avoir constaté des avancées significatives en ce qui concerne les revendications des enseignants, considérant les sollicitations des parents et des élèves, et vu le retard encaissé, le comité intersyndical de la province éducationnelle Nord Kivu 2 porte à la connaissance de tous les enseignants qu'il est important de suspendre le mouvement de grève sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2 et prie les camarades enseignants de rejoindre les apprenants à l'école.
La semaine dernière, lors d'une réunion organisée par le maire de Butembo avec les acteurs du secteur éducatif ainsi que des représentants de la société civile locale, les participants avaient également voté à l'unanimité pour la reprise des cours par un vote à main levée. Beni, Grévis Salomon, Radio Okapi.
On enchaîne avec le chapitre santé. Au Congo central, la maternité gratuite instaurée par le chef de l'État semble être un véritable fiasco selon plusieurs observateurs. Plus de 2 mois après son effectivité, ces programmes commencent à compromettre le bon fonctionnement des hôpitaux et leurs pharmacies sont tombées en faillite, affirment des sources hospitalières ayant requis l'anonymat. Plusieurs femmes qui accouchent affirment d'ailleurs que dans tous les paquets qu'offrent ces programmes, seule la sortie de l'hôpital est gratuite. Le chef des divisions provinciales de la santé du Congo central, contacté par Radio Okapi, indique qu'il n'est pas saisi officiellement par les gestionnaires des structures concernées. Reportage à Matadi de Nana Plurichimambo.
2 mois après le lancement du programme de la maternité gratuite au Congo central, les pharmacies des hôpitaux qui l'appliquent sont en faillite selon elles. Les femmes qui devraient bénéficier gratuitement des soins liés à la consultation prénatale, aux accouchements, jusqu'à la prise en charge du nouveau-né, commencent à payer elles-mêmes certaines prestations. Témoignage.
Moi, je vais accoucher par césarien. L'hôpital m'a demandé d'acheter des kits d'accouchement à 200 000 francs. Ils ont dit que dans la pharmacie, ils n'ont rien. J'ai tout acheté moi-même, sauf la partie.
La cause de cette situation, c'est la passivité du Fonds de solidarité de la santé FCS qui a la mission de payer les prestations des hôpitaux ciblés, affirment les centres hospitaliers. Pendant ce temps, les prestataires se disent impayés et les médicaments et autres intrants sont épuisés. Au FCS et aux gestionnaires des structures sanitaires, les chefs de division provinciale de la santé du Congo central, Dr Bonheur Tshiteku, recommandent ceci.
Les gestionnaires des structures doivent remonter régulièrement leurs commandes pour que FPS, Fonds de promotion de la santé, puisse leur rendre disponibles les médicaments dans les délais. FCS, normalement, ils doivent payer dans les délais les structures pour les aider à maintenir les fonds de roulement et bien mener leurs activités.
Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et pour cette information qui nous vient du Sud Kivu, une pirogue motorisée en provenance de Minova pour Bukavu a chaviré sur les eaux du lac Kivu ce dimanche soir. Selon la société civile de Kalehe, cela s'est passé vers Kasunyu, groupement de Buzi, chefferie de Bukavu, dans les territoires de Calais. Le bilan provisoire serait de 10 rescapés et la pirogue disparue avec toutes les marchandises. À l'origine, une forte pluie qui s'est abattue sur la zone. La société civile de Calais, qui alerte sur cette situation, appelle la population de Calais à la prudence pendant cette période de la pluie pour prévenir plusieurs autres dégâts humains et matériels et aux services attitrés de l'État à bien jouer leur rôle. Par ailleurs, un enfant de 8 ans, mort foudroyé, quelques blessés, des maisons d'habitation, écoles, églises endommagées et des champs détruits, c'est le bilan de la pluie des grêles qui s'est abattue hier sur la chefferie de Bena, Mungona, territoire des Congolais dans la province du Tanganyika. Information livrée par Kasongo Lwakadiana, chef coutumier de cette chefferie. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
C'était vers 16 heures ce dimanche lorsqu'il a commencé à pleuvoir. La forte pluie était accompagnée par la grêle. Pendant la pluie, un enfant était foudroyé et au moment où je vous parle, la victime est conduite au cimetière pour l'enterrement. Cet enfant s'est trouvé à l'école et jouait au football avec ses amis lorsqu'il a été foudroyé. Nous nous sommes rendus dans différents villages pour faire le constat des dégâts causés par la pluie. C'est notamment au village Kasanga, Kimwanga, Kibea, Chombe et Kiboja. Il y a des maisons d'habitation, des écoles, des églises qui sont tombées. Quelques personnes sont blessées par des briques de maisons qui se sont écroulées. Et nous avons remarqué qu'une maison a pris feu pendant qu'il pleuvait. Nous ne connaissons pas l'origine du feu. Il y a aussi des champs de manioc qui sont détruits par la grêle.
Nous l'avons dit dans les titres. Au Nord Kivu, une panique est perceptible parmi la population civile ce lundi dans la cité de Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba, territoire de Walikale. La situation, selon la société civile locale, est consécutive à une avancée depuis le week-end des rebelles du M23 RDF. Ces derniers ont occupé presque 100 combats d'autres localités de la zone, entre autres Malemo et Mpeti. Ceci pousse plusieurs habitants à fuir les milieux. Bernard Denyangi.
C'est après quelques échanges de tirs contre les éléments FRDC et VDP au Zalendo, successivement samedi et dans la soirée hier dimanche, que les rebelles du M23, selon des sources locales, ont pu occuper d'autres villages de la zone. C'est notamment Kitobo dans la localité de Mulindwa, Bitongi dans la localité de Kalembe, puis Mijenje, avant leur avancée sur Mpeti et Malemo. Cette avancée des rebelles, soutenue par le Rwanda, panique déjà la population de Pinga, chef-lieu du groupement Kisimba. Pour un membre de la société civile locale, ceci provoque ainsi une dégradation de la situation humanitaire. Balou Meguila.
L'ennemi n'est plus loin de Pinga, à plus ou moins 18 kilomètres. C'est entre Mijenje et Mpeti là-bas. C'est une menace sérieuse sur Pinga. La population souffre. Une partie prend le large dans la brousse, d'autres s'amassent dans l'hôpital. Vous savez qu'il y en a une partie qui a fui depuis Kichanga. D'autres ont fui depuis Kalembe. Arrivé à Pinga, ils prennent encore fuite dans la brousse.
Ce lundi, la situation reste toujours volatile dans cette zone où toutes les forces belligérantes renforcent leur position, à en croire un officier militaire. Contacté ce matin, l'armée a pris les dispositions nécessaires afin de bloquer cette avancée des rebelles. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Ituri, plus de 500 cas de violences sexuelles sont répertoriés depuis le début de cette année dans le site des déplacés de Roé, à environ 100 km au nord de la ville de Bounia, dans les territoires de Djougou. D'après des témoignages recueillis sur place, les victimes sont entre autres des jeunes filles mineures abusées sexuellement à cause de leur vulnérabilité. Les responsables des structures médicales locales disent avoir lancé une campagne de sensibilisation en vue d'éradiquer ce phénomène. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Les victimes de ces violences sont des jeunes filles mineures dont l'âge varie entre 11 à 13 voire 16 ans qui se livrent au sexe et des survies dans les sites des déplacés d'Héro dans le territoire des Djougou. Ces violences sont commises pendant que ces filles se rendent au champ, à l'école ou à la source pour puiser de l'eau à l'extrémité des villages. D'autres sont abusées sexuellement au site à cause des conditions de vie difficiles, rapportent les gestionnaires du site. Une situation qui inquiète de nombreux parents.
Des jeunes filles adolescentes sont en train d'être engrossées presque tous les jours, certaines pendant qu'elles se dirigent au champ à la recherche des nourritures ou des bois de chauffage. La plupart d'entre elles ont perdu leurs parents et restent seules. et ça c'est vraiment un problème.
L'infirmier titulaire des Blue Kwa État indique qu'une vingtaine de victimes de violences sexuelles sont notifiées au cours de ce mois d'octobre.
Il y a beaucoup de mineurs qui sont engrossés quand ils viennent pour l'accouchement, ils viennent même s'apagner. Comme ce sont des mineurs, c'est ça le problème. Les victimes, nous les soignons au SATSATE. Et ce que je demanderais aux humanitaires, qu'on puisse aussi aider ces filles-là avec même des pagnes, des habits.
Certaines organisations humanitaires mènent des campagnes de sensibilisation dans ces sites qui comptent plus de 65 000 personnes affectées par des conflits armés depuis 2017. Bounia Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Parlons du débat autour de la révision ou du changement de la constitution. Les idées de Martin Fayulu et l'envol de Délice Sanga lancent une campagne de sensibilisation contre toute manœuvre du pouvoir visant à toucher à la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Pour sa part, le Front commun pour le Congo du président honoraire Joseph Kabila dit non catégoriquement et un non sanglant à toute tentative de toucher à la constitution pour se donner les moyens de régner sans partage, d'asservir les Congolais et de piller le pays à volonté. Michel Kifindangoy.
S'adressant à une foule de la population samedi à Kinshasa, Prince Epenge affirme que le CIDE va se battre partout avec le peuple et le président Félix Tshisekedi ne gagnera pas les Congolais cette fois-ci. Le secrétaire général de l'Envol précise quant à lui que la campagne contre les changements de la Constitution vise à préserver les acquis de la démocratie. Rodrigue Ramazani.
Monsieur Tshisekedi, arrivé à son deuxième et dernier mandat, veut trépigner le cadre constitutionnel existant afin de s'octroyer un troisième mandat et refuser de faire la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Raison pour laquelle mon parti L'Envol a lancé contre cette initiative démocraticide de monsieur Tshisekedi une campagne contre le changement de la constitution.
Emboîtant les pas de l'opposition, le Front commun pour le Congo dénonce ce qu'il qualifie de nostalgique de parti État et de la pensée unique, qui rêvant debout, pense ainsi se donner des moyens de régner sans partage, d'asservir le peuple congolais et de piller le pays à volonté.
Merci à vous, Michel Kifinda Ngoy, pour toutes ces précisions. Soit cette autre nouvelle. La PLC, Agence de prévention et lutte contre la corruption, s'engage dans l'amélioration du cadre législatif de lutte contre la corruption en vue de mieux endiguer ses conséquences néfastes qui se répercutent sur tous les secteurs de la vie politique, sociale et économique. C'est dans cette optique qu'elle réunit depuis ce lundi à Hilton Hotel ici à Kinshasa divers acteurs et structures étatiques comme privées qui militent contre ces fléau afin d'amender un draft d'un nouveau projet de loi de lutte contre la corruption. Michel-Victor Lissaï, coordonnateur de l'APLC, donne ici quelques grandes lignes des innovations contenues dans le texte devant constituer le projet de loi contre la corruption. Il est au micro de Billy Van Lutumba.
La non-pertinence de la qualité officielle de l'auteur de l'infraction de corruption et des infractions y assimilées, la protection des dénonciateurs, témoins, experts et victimes, comme je l'ai dit, la prescription de 30 ans contre l'auteur de l'infraction de corruption et des infractions y assimilées, le renforcement du régime répressif, notamment par l'aggravation des peines d'emprisonnement et d'amende pour l'infraction de corruption et les infractions y assimilées, la création d'une agence en charge du recouvrement des avoirs illicites. Je suis convaincu que de la mutualisation de nos intelligences jaillira le meilleur rempart à cet ennemi commun qu'est la corruption.
Après ces trois jours d'analyse et examen approfondi de ces textes, la PLC prévoit de les transmettre au ministre de la Justice afin qu'il le porte au Conseil des ministres dans le but d'en faire un projet de loi à soumettre au Parlement.
Actualité internationale.
Emmanuel Macron entame ce lundi à Rabat une visite d'État de trois jours au Maroc. Le président français sera accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de bruit entre les deux pays, ce déplacement, plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron, vise à sceller la réconciliation et à préparer l'avenir.
L'invité.
La 8e édition du Salon des métiers et de la formation ouvre ses portes ce mardi à Lubumbashi. Placé sous le thème « Développer les compétences pour demain, favoriser la collaboration et l'innovation. À cette occasion, les jeunes de plusieurs horizons vont exposer leur savoir-faire dans divers domaines dont la mécanique, l'agrobusiness, l'électricité, la couture, la maçonnerie et autres. Pour le président de la FEC au Katanga, les jeunes doivent croire en eux et en leurs capacités innovatrices car la formation est la clé de tout développement. Patrick Mouland est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandukabongo.
Patrick Mouland, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean.
En quoi le salon de métier de la formation est utile tant pour les entreprises que pour la jeunesse qui a les aspirations d'être entrepreneur un jour?
La réponse est simple. Elle s'articulera sur le simple fait qu'elle favorise et qu'elle encourage l'adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, vous vous doutez bien que la FEC, en tant que Fédération des entreprises du Congo, a besoin justement de ce qu'on appelle en général les petites mains, mais que nous dirons les grandes mains. Parce que c'est de ces grandes mains que nous pouvons assurer un développement socio-économique pour notre pays.
Mais nous savons qu'il y a quand même une certaine inadéquation entre les besoins de la société et les formations qui sont données aux jeunes. Mais à ce stade, comment concilier les deux?
Je pense que c'est un peu ça le rôle du salon. Le rôle du salon des métiers, c'est justement pour arriver à réduire cette adéquation. C'est justement ce grand rendez-vous qui permet de détecter les besoins entre les employeurs, les employés, les universités, les instituts supérieurs et les grands consommateurs qui sont les entreprises. Donc au fur et à mesure que ce salon est fait, c'est pour justement détecter ces anomalies et voir autour de ce grand rendez-vous comment y remédier.
Pensez-vous que le temps minimum qu'ont ces jeunes dans cette formation suffirait pour qu'ils maîtrisent les domaines dans lesquels ils doivent exceller?
Le salon n'est que l'événement, mais avant qu'on en arrive à cet événement, c'est tout un processus qui a commencé. Donc le salon n'est que la consécration visuelle de ce que vous voyez. Mais c'est tout un processus qui nous y emmène.
Il y a certains jeunes qui sont peut-être dubitatifs et même hésitants d'embrasser certains domaines clés en tant que gestionnaire des entreprises ou des entrepreneurs. Dites-nous, en quoi cela peut stimuler ces jeunes à venir vers ces entreprises, mais aussi à innover dans les secteurs qui sont les leurs?
Alors, en tant que vous dites entreprise, l'hésitation et le fait d'être dubitatif est une grande erreur. Je pense que je peux le confirmer avec toute l'expérience, évidemment, que nous drainons. Prenons le cas de plusieurs entreprises, dont celle dont moi-même je gère. Sans ces grandes mains, on ne sait pas fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu que parmi les métiers qui ont été retenus pour la 8e édition, il y a, à titre d'exemple, sur les 10 métiers phares, nous avons les mécaniciens. Or, vous savez bien que les mécaniciens, aujourd'hui, la mobilité, c'est quelque chose d'essentiel. La mobilité, elle est importante. Les personnes doivent bouger, les marchandises doivent bouger, qui entretient tout ce pilier de l'économie qui favorise tous ces échanges. Ce sont ces grandes mains. Donc aujourd'hui, à pas être dubitatif, l'avenir du pays, l'avenir du développement de demain, c'est justement ces grandes mains. Donc il n'y a pas à être dubitatif, je pense qu'il faut y aller, il faut avancer, et je pense que le résultat finira par le témoigner sur le long terme.
Pensez-vous que le courage seul suffirait, ou il faut y adjoindre également les moyens pour enfin commencer et percer?
La première chose, vous avez parlé du courage, la première chose, je dirais également la passion, parce que le courage, je peux l'allier à la passion. Et lorsque l'on a la passion, on a la volonté, le reste suit. Donc les moyens, oui, c'est une chose, c'est vrai qu'il faut des centres de formation, c'est vrai que nous devons être accompagnés, et je pense que dans ce processus, la FEC n'est pas seule. Il y a plusieurs partenaires qui nous accompagnent. Je crois que nous avons, pour les citer, l'INPP, le CDR, l'ONEM, Enabel, Wallonie-Bruxelles. Donc c'est tout un écosystème qui accompagne ce processus. Donc je pense que c'est un problème d'abord de volonté et ensuite les moyens vont venir. Quand on a commencé la première édition, elle était timide. Je pense que c'était d'abord la passion et la volonté du besoin et je pense que progressivement l'écosystème a commencé à se créer et on espère que cet écosystème, partant de la passion, permettra davantage de susciter l'intérêt.
Enfin, à quoi vous attendez-vous pour cette 8e édition?
Ce que nous pouvons attendre en définitive, c'est d'arriver à susciter l'intérêt auprès de toutes les parties prenantes de l'intérêt que nous avons pour la formation des métiers. La formation des métiers, c'est le cœur même du développement social et économique d'un pays. Donc l'intérêt, c'est de susciter toute cette attention, de susciter tout cet intérêt que nous devons mettre ensemble toutes les énergies possibles, et je reviens en saluant l'accompagnement de tous nos partenaires, de mettre toute l'énergie à susciter l'intérêt que les métiers sont l'élément clé et essentiel du développement social et économique attendu dans le long terme.
Un message pour les jeunes?
Allez-y, n'hésitez pas. Et ensemble, nous allons voir ce que vous nous avez réservé comme surprise cette année.
Patrick Mouland, je vous remercie.
Merci, Monsieur Jean-Denis.
Le président de la FEC au Katanga répondait aux questions de Jean Ngandou. Il est 16h20 à Lubumbashi. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Élisée Tshikotati Vueta et supervisé par Martin Sebujangwe. Polydor Basunga assurait la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci de l'avoir écouté.
Okapi, encore plus d'infos. Okapi Sport.
Bonjour chers amis sportifs et bienvenue à ce journal des sports sur Radio Okapi à la présentation Kanishimu Kongo Fanikizi. Un rendez-vous à ne pas manquer ce soir.